voix nue. Toute cette semaine, Philippe Bresson rencontre Fanny Ardant. Ce soir, l'amour à mort.
Le cinéma, dites-vous, c'est la lumière dans le noir. Et sans lumière, on devient fou. En près de 70 longs métrages, une vingtaine de téléfilms et bientôt 4 films en tant que réalisatrice, vous avez su faire de votre vie une forêt de lumière, une forêt de petites bougies qui éclairent votre nuit ainsi que la nôtre, un peu comme dans le film de François Truffaut, La Chambre verte, mais d'une toute autre manière. Chacune de ces lumières représentant ici le désir qu'un auteur, un scénariste, un producteur, un metteur en scène a eu de vous. Et ils sont nombreux, ceux qui vous ont choisi pour être dans leur histoire, dans leur film. Truffaut, bien sûr, dont nous parlions hier, mais aussi Alain Resnais, Ettore Scola, Claude Berri, Margaret von Trotta, Michelangelo Antonioni, Franco Zeffirelli, Costa Gavras, François Ozon, Tsai Ming-liang, Paolo Sorrentino et bien d'autres encore. Bonsoir Fanny Ardant.
Bonsoir.
De cette forêt, bien sûr, nous ne ferons pas le tour aujourd'hui car elle est vaste, tout au plus 2 ou 3 clairières. Et pour en débuter la visite, j'aimerais que vous me parliez de votre rencontre avec Alain Resnais. Resnais avec qui vous avez tourné 3 films, le premier La vie est un roman en 1982. Un film qui se passe d'ailleurs dans une forêt, si je me souviens bien, celle des Ardennes. Un film très baroque, dans lequel vous jouez le rôle de Livia. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce film? Une sorte de métaphore sur le bonheur ou plutôt une fable amère sur les prédicateurs en tout genre?
Moi, je crois que c'était un film fait par un enfant pour des adultes qui se prenaient au sérieux. Donc, il y avait quelque chose comme si Alain Resnais disait toujours « J'ai écrit cette histoire parce que c'est rigolo. » Il disait ça. Mais que c'était comme des éclats. C'était 3 époques. Moi, j'étais dans l'époque 1900. Je me rappelle que je commençais le rôle en parlant de amour, 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 avec André Dussolier. J'ai un souvenir d'avoir tourné ce film sans comprendre, comme en se laissant porter, disponible. Il y avait, dans une autre époque, je n'avais pas de rôle avec lui, Gassman, que je retrouvais. Et puis il y avait ce chanteur d'opéra, comment il s'appelait ?
Ruggero Raimondi.
Oui, que j'aimais beaucoup. Ce qu'il disait, il me disait, mais comment vous faites, vous, les acteurs, pour rester des heures dans les marques ? Et je disais, mais comment faites-vous, vous, pour ne jamais estropier le contrute? Donc, c'était comme si je ne comprenais pas qu'un chanteur d'opéra soit épaté par un acteur, alors que le chanteur d'opéra, c'est beaucoup plus difficile. Donc Alain, pour moi, Alain Resnais, quelqu'un de mystérieux. Et son univers m'est toujours resté mystérieux. Ou peut-être parce que lui-même était comme très réservé. Très, dans le sens réservé, mais en même temps attentif. Je me souviens que pour le 3e film que j'ai tourné, le 2e film, L'amour à mort, il avait entrepris, Pierre Arditi, Sabine Azéma, André Dussolier et moi, de nous initier à la musique dodécaphonique. Mamma mia. Et donc, il venait avec son petit cartable chez chacun. Et puis... il venait, et puis tout d'un coup, je lui dis, non, écoutez, ça me barbe.
Mais alors, il vous faisait écouter quoi? Du Berg, Schoenberg?
Oui, avec des petits livres qu'il fallait lire. Oui. Moi, quand j'avais aucune envie de lire, que ça me barbait trop. Et puis un jour, j'ai dit, non, Alain, si je suis honnête, je dois vous confesser que ça me barbe. Alors, il a dit, ah, mais c'est très étonnant, parce que les 3 autres acteurs sont complètement fanatiques de cette musique. J'ai dit, des hypocrites, oui. Et il était étonné, parce que il est très honnête, Alain Resnais.
Comme vous, c'est un grand passionné de littérature, de musique, de théâtre. Oui. Vous sembliez donc fait pour vous rencontrer sur un plateau de cinéma, lui et vous.
Oui, et puis un grand travailleur, un grand angoissé, mais qui le cachait avec l'élégance.
Il dit que quand il choisit un acteur, il a besoin qu'il ait un timbre de voix particulier, des gestes personnels et un phrasé très reconnaissable qu'on pourrait identifier simplement en écoutant le film à la radio. Alors je me dis qu'avec vous, Fanny Ardant, il a trouvé son image sonore.
Je ne sais pas, mais je sais que... Voilà, j'ai... Je me souviens que quand il m'avait dit pour Mélo, vous savez, je voudrais reprendre le quatuor de L'amour à mort, mais il n'y a pas de rôle important pour vous. J'aimerais que vous le lisiez. Mais je disais, je ne vais pas le lire parce que vous voulez reconstituer le quatuor. Donc je dis oui. Comme vous savez, des élèves dans une cour de récréation et qui passent d'années et puis qui se retrouvent et qui disent, bon, allez, on recommence à jouer aux gendarmes et aux voleurs. Je crois que j'avais ce rapport avec Alain, où moi je ne suis pas une intellectuelle. Il y a des choses que je ne comprends pas, mais que je ne cherche pas à comprendre. En fait, ça m'est égal de ne pas comprendre.
René parlait beaucoup, je crois, avec les acteurs avant le tournage. Il allait même jusqu'à fournir à chaque acteur une biographie de son personnage. Comment ça se passait ?
Il donnait des détails de ce qu'il ne montrerait jamais. Mais il nourrissait l'imaginaire de l'acteur. Comme ça, comme une bouteille à la mer. Peut-être que ça allait nous servir pour quelque chose. Peut-être que ça allait déclencher autre chose. Je me souviens que moi, quand j'ai joué dans L'amour à mort, cette femme pasteur, je me souviens plus de ce qu'il m'a dit. Mais que c'était un des rôles que j'ai joué qui est le plus loin de moi. Mais très, très, très loin.
En effet, vous jouez une femme pasteur dont le look déjà est très différent du vôtre à la ville. Chaussures plates, cheveux plaqués avec deux barrettes sur les côtés. Un look un peu scoutisme protestant, je dirais.
Absolument, absolument. Et surtout, outre ça, il y avait une femme sereine, lumineuse, altruiste, généreuse. Le contraire de moi. Donc je disais, ah, ça c'est intéressant. Parce que comme je vous disais, je n'ai pas besoin que les autres aiment le personnage que je joue. Mais moi, j'ai besoin ou de l'aimer, ou de m'y reconnaître, ou d'être tellement loin de moi que j'aimerais être ce qu'on me propose.
Dans L'amour à mort, on postule la résurrection de deux personnages, de l'un des deux personnages, un peu comme dans Ordette de Trayeur d'ailleurs. Deux couples, deux religieux et deux scientifiques confrontés à la mort de l'un d'entre eux. Et peut-être, en filigrane, l'idée que dans notre société athée, l'amour entre deux êtres est la forme de croyance la plus absolue.
C'est ça.
C'est peut-être ça.
Oui.
Qui est si fort dans l'amour à mort.
Absolument. Et puis, vous savez bien que les gens qu'on aime ne meurent jamais parce qu'on les garde en soi et qu'on peut les appeler quand on veut. Il y avait aussi un film qui m'avait beaucoup frappé. Je crois que c'était Mankiewicz, peut-être. Il s'appelait Le fantôme de Mrs. Muir. Elle avait perdu le mari qu'elle aimait passionnément. Et puis la nuit, elle allait voir son portrait, puis il sortait du portrait. Et là, il s'asseyait, il se racontait les choses, la vie, il riait, il dansait. Je disais, waouh, ça c'est... Tu vois ? Mais que c'est pas parce que les gens meurent ou qu'on pense qu'ils sont ailleurs, qu'ils ne sont pas en vous.
Il y a souvent dans les films de René un moment où intervient un long monologue, comme une confession, qui en général révèle une facette du personnage qu'on n'avait pas soupçonné jusque-là, son double en quelque sorte. J'aimerais qu'on entende le monologue de la femme pasteur que vous jouez dans le film, Judith Martignac. Alors, le contexte est le suivant. Elisabeth, qui vient de perdre Simon, l'homme qu'elle aimait, vous dit qu'elle va mourir, qu'elle veut mourir, qu'elle l'a promis à Simon, mais qu'elle ne sait même pas s'il l'a entendu, car il est mort aussitôt.
Une promesse faite dans de telles circonstances n'a aucune valeur. Vous n'avez rien promis, rien, Elisabeth. Vivez. Non pas parce que vous devez vivre, mais parce qu'il vous est permis de vivre. Vous êtes libre. Si je vous disais qu'il y a bien longtemps, Simon et moi, nous nous sommes aimés. Nous avions inventé l'amour. Simon avait 20 ans, moi 15. Nous étions d'autant plus persuadés de vivre quelque chose d'unique, d'irremplaçable, que personne n'était au courant de notre aventure. Simon disait qu'un tel amour ne pouvait pas durer, que nous serions de plus en plus laids, usés par la vie, peut-être malades, infirmes, que nous finirions par nous détester, qu'il faudrait mieux mourir, mourir tout de suite. Je pensais comme lui, qu'il fallait que le temps s'arrête. Et nous avons fait le serment de mourir ensemble. Ce que je vais vous dire, personne ne l'a jamais su. C'était un jour d'octobre. Il faisait déjà froid. Nous nous sommes rendus à bicyclette dans la maison de campagne de mes parents. À cette période de l'année, personne n'y venait plus. Nous nous sommes mis entièrement nus. Nous grelottions. Nous avons fait l'amour. Nous avions décidé de nous ouvrir mutuellement les veines avec des lames de rasoir. D'abord, les lames glissaient, nous échappaient des mains. Ensuite, nous n'avions pas prévu que le sang s'arrêterait tout de suite, qu'il se coagulerait si vite. On avait beau presser sur les veines, rien ne sortait. À la fin, nous en étions tout barbouillés. Nous ne savions plus quoi faire. Simon s'est mis à vomir. Nous nous trouvions ridicules. Nous avons voulu nous laver, mais les canalisations étaient gelées, alors nous sommes rentrés. Pour expliquer mes cicatrices au poignet, j'ai raconté à mes parents que je m'étais blessée en cassant une vitre. Pendant 15 ans, je n'ai jamais revu Simon. Nous avions trop honte l'un de l'autre pour avoir envie de nous revoir. À Strasbourg, à la faculté de théologie, j'ai rencontré Jérôme et j'ai compris alors que le premier amour, ce n'était pas l'amour. J'ai inventé l'amour avec Jérôme.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, Fanny Ardant, mais je ne l'avais pas remarqué quand j'ai vu le film, mais quand j'ai lu la scène, j'ai eu le sentiment que le scénariste s'était amusé aussi avec ce texte. J'ai l'impression qu'il parle de deux enfants qui jouent à l'amour à mort. Pour moi, il y a une dimension presque tragicomique.
Mais moi, je n'aime pas ça. Moi, j'ai aimé Kleist. Donc, je n'aime pas qu'on se moque des gens qui se tuent par amour. Je ne veux pas qu'on le ridiculise. Et je ne suis pas sûre non plus que le premier amour n'est pas le vrai amour. Que c'est une pensée réfléchie de gens qui se sont arrangés avec la vie, de gens qui sont raisonnables, des gens qui ont un sens commun, on pourrait dire. Que deux enfants qui se suicident par amour, il n'y a rien à dire. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que ce rôle que je jouais, Judith, j'étais loin, loin, et j'aimais bien tout d'un coup me dédoubler en disant des choses auxquelles je ne croyais pas. Quand vous dites tragicomique, moi j'aime bien la tragédie comédie, comme dans les films italiens, où on choisit de rire, mais en fait on va pleurer. Tandis que je déteste la sagesse, je déteste l'accommodement. En disant, oh, on va bien s'arranger avec la vie, tu verras, c'est pas si mal que ça. Non.
Eh bien, parlons-en de la comédie à l'italienne. Ettore Scola, disparu en janvier 2016, et avec qui vous avez tourné à deux reprises, dans La Famille, en 1987, puis Le Dîner, en 98.
C'était et la comment... chaîne. Oui, la chaîne, oui, c'est ça. C'est ça, Le Dîner, c'est la chaîne.
C'est le nom, c'est le titre italien.
Oui.
C'était comment d'être dirigé par le grand Ettore Scola?
Ah, j'ai beaucoup aimé. Parce que moi, j'ai toujours fait l'apologie du chaos. Je déteste les gens qui hurlent silence, tu vois, les gens comme ça, comme si c'était sérieux. C'est peut-être tragique, c'est peut-être grave, mais c'est sûrement pas sérieux. Faire un film, c'est pas Hiroshima. Donc, je déteste quand tout d'un coup, il y a le côté adudant, hurlement, attention, on travaille dans le génie. Et moi, quand on me dit silence, même si j'ai rien à dire dans mon coin, je fais pour faire du bruit. Et moi, ce que j'aimais dans ce cas-là, c'est qu'il y avait sur les plateaux italiens un chaos incroyable avec tous les techniciens. C'est tous des génies, tout le monde travaillant, etc. Et puis tout d'un coup, en disant silencio, et les gens jouaient. J'ai retrouvé ça un peu chez Polanski. C'est ces gens qui savent exactement ce qu'ils veulent. Mais, main de fer dans un gant de velours, comme ça, pas dupe. Moi, pas mille explications non plus. Si ça va pas, ça va pas. À vous de trouver ce qui va pas.
Comme Fellini, Ettore Scola a d'abord été, juste après la guerre, dessinateur de presse pour des journaux humoristiques, notamment l'hebdomadaire satirique Marc Aurelio. C'était un peu, on peut dire, l'ancêtre de Charlie Hebdo, d'une certaine manière. Il me semble qu'on retrouve dans ses films quelque chose de ce trait satirique, ce mélange de caricature féroce et de mélancolie, finalement une grande liberté.
Oui, jamais identifié, toujours le recul, pour pouvoir avoir un regard moqueur. Même sur l'amour, voilà, le côté moqueur, en désespoir de cause. Quand il avait fait Brutti, cattivi e sporchi, là, ce film sur la pauvreté, il n'y a pas le regard, la tête penchée sur le cas social. Il s'en moque, mais parce que c'est encore plus tragique, je trouve. Moi, j'aime beaucoup travailler avec les Italiens.
Et vous le disiez tout à l'heure, vous aimez ces histoires de famille à l'italienne, ce joyeux bordel. quand tout le monde se chamaille, se prend à partie.
Oui, ça veut dire que c'est loin de l'indifférence, que tout le monde se mêle les affaires des autres, que tout le monde a un avis sur tout, que tout le monde donne des leçons. Et finalement, je sais que quand je suis arrivée en Italie, je ne parlais pas l'italien. Et j'ai rencontré les Marcello Mastroianni, Gassman, Ettore, qui faisaient tous l'effort de parler ma langue. Et donc, je me suis lancée dans l'italien. Et il y avait toujours des dîners énormes où les gens parlaient, criaient, buvaient et racontaient des barzellettes, ça veut dire les petites histoires drôles. Et moi, je me sentais tellement exclue parce que je ne comprenais pas. Et un jour, ils en ont raconté une, mais j'ai ri. Et il y avait à peine de quoi rire. Et donc, on me disait, oh, moi, ça y chème, hein. Mais t'es idiote ou quoi? Il n'y a rien à rire. Mais j'étais tellement contente d'avoir fini par comprendre l'italien que j'étais sauvée. Je parlais italien.
Vous évoquiez Vittorio Gassman. Vous avez tourné avec lui dans La vie est un roman, dont nous parlions tout à l'heure, mais aussi dans Benvenuta, d'André Delvaux, puis dans le film d'Ettore Scola. Quelle sorte de partenaire était-il? Il venait du théâtre, lui aussi. Oui. Et il est arrivé au cinéma relativement tard, comme vous.
Et ça l'énervait beaucoup, le cinéma. Il faisait beaucoup de cinéma pour pouvoir payer son école et ses spectacles. Il était d'une nature impatiente, ce qui me plaisait. C'est une des premières choses qu'il disait, oh, tu sais tes lignes, j'espère. Comme si les actrices sont des abrutis qui vont perdre du temps parce que la mémoire m'aguarde. Mais que j'aimais beaucoup parce que très cultivé. Un grand timide qui était provocateur. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et Gassman, il venait me voir jouer au théâtre. Et j'avais peur. Puis je jouais. Et puis il m'emmenait dîner. Et puis, il primo piatto, il secondo piatto, le premier plat, le deuxième plat, puis moi je parlais pas. Puis, arrivé le dessert, il poussait son assiette, il disait, bon, maintenant on va parler de ce que j'ai vu. Et j'aimais bien, parce que c'était pas juste comme ça, ah bravo. Il avait tout vu, tout disséqué, tout dit. Et puis, il m'avait beaucoup aidé dans des moments très difficiles de ma vie. J'aimais beaucoup cet homme, parce que c'était la culture. La provocation, le côté... il embrassait les filles comme ça, même sans la permission des filles. Donc ça créait des... Les poules qui partaient effarouchées. J'ai aimé cet homme.
À l'époque de la famille, Ettore Scola vous découvrait et il dit dans une interview avoir constaté un peu étonné que vous étiez une actrice comique, Fanny Ardant. C'est dans des films comme Pédale douce de Gabriel Aguillon, film pour lequel vous avez obtenu le César de la meilleure actrice en 1996, ou La débandade de Claude Berry, que l'on vous voit pour la première fois dans des situations drôles, décalées. Mais diriez-vous pour autant, comme le disait Ettore Scola, que vous êtes une actrice comique?
Mais pas du tout. Moi, je pèse 1000 tonnes. J'aime bien. Je pense que je ris plus dans la vie que devant des films drôles. C'est la vie qui me fait rire plus que les histoires drôles. Mais, je sais pas, j'aime le décalage peut-être, c'est ça. C'est quand être très sérieux dans des situations drôles. C'était ça ce qui m'était arrivé dans Pédale douce. Mon rôle était presque tragique. J'étais seule, j'attendais l'amour. Et donc ça a été une sorte d'imbroglio, un peu à la Fedot. Mais non, je ne suis pas comique.
Ridicule, le film de Patrice Lecomte, toujours en 1996, a également été un énorme succès en France, mais aussi aux États-Unis, où il figurait parmi les favoris pour l'Oscar du film étranger. À ce moment-là, l'Amérique vous accueille en star. Est-ce que ça vous a fait plaisir, Fanny Ardant? D'autant que c'était juste après la sortie de Sabrina, de Sidney Pollack.
Non, ça c'est parce que vous avez fumé la marijuana, mais je n'ai jamais été accueillie comme une star en Amérique, parce que moi, je me souviens que la première fois que je suis venue en Amérique, c'était pour présenter La femme d'à côté.
Oui.
C'était en 1981, on va dire. Donc il existait toujours la guerre froide. Je me rappelle d'avoir été à une conférence de presse, où un homme m'a demandé en anglais, est-ce que je rêvais d'une carrière hollywoodienne? Et là, j'ai laissé bien la question envahir mon cerveau, et j'ai pris du temps, et j'ai dit non. Moi, j'ai toujours aimé l'Est. Si je voulais faire une carrière, ça serait en Russie. Un froid gelé s'est abattu sur la conférence de presse. Ils ont pensé une provocation, mais devant Dieu, je vous le jure, que c'était parce que j'aimais les romans, les choses. Et je me rappelle qu'on m'avait dit, tu peux mettre une croix noire sur ta carrière en Amérique. Ok. Donc, je n'ai jamais été accueillie comme une grande star en Amérique. Peut-être des films de Patrice Lecomte, mais pas moi, Fanny.
Le remake de Billy Wilder par Sidney Pollack.
Ben oui, parce que Sidney Pollack, c'est un cinéphile. Et c'est pas un vrai Américain.
Vous faites partie des comédiens, Fanny Ardant, qui ne regardent jamais leurs films. Et ce n'est pas seulement parce que vous n'aimez pas vous y voir, je crois. Pour quelle raison, alors ?
Parce que je pense qu'il y a toujours, quand on fait un film, il y en a trois. Il y a celui qu'on porte en soi, celui qu'on fait, et celui qui existe. Donc moi, je porte celui que j'ai lu, allongé sur mon lit avec le scénario, celui que j'ai fait pendant un mois et demi, deux mois, la joie, les peines, les illusions, les désillusions. Et j'ai pas envie de sortir de ça. J'ai pas envie de voir ce qui est. Donc c'est à travers le regard des autres qui me parle tout d'un coup d'un film. Et puis je vois, mais comme je l'ai pas vu, il me parle d'un autre film.
D'une manière, vous envisagez le cinéma comme le théâtre. Au théâtre, vous ne savez pas.
Rien n'est retenu. C'est que dans le moment éphémère. C'est pour ça que souvent, je suis en ça assez cohérente. C'est que je n'accepte que les rôles que j'aime. Parce que pendant que je les fais, je crois complètement à tout ce que je fais, au film dans lequel je suis, que j'aime. J'aime venir tous les matins et revoir les techniciens, les acteurs, le metteur en scène, construire comme ça une histoire magique. Et puis une fois que c'est fini, c'est fini.
J'ai envie qu'on revienne sur une chose que nous évoquions tout à l'heure à propos de l'amour à mort. J'ai pensé à cette question entre-temps. Ne croyez-vous pas que notre époque toute tournée vers la macrobiotique, l'idée d'une vie toujours plus longue, se caractérise aussi par un refus de la mort, un déni quasi pathologique de la mort? J'aimerais connaître votre position concernant l'euthanasie, ce beau mot grec qui signifie « belle mort ».
Ben, je crois que ça, c'est la liberté souveraine de quelqu'un qui peut dire tout d'un coup « au revoir ». Ou de soi-même, ou de gens assez proches, assez aimants, pour briser la loi. Je comprends qu'une loi, peut-être que c'est un peu en disant « sinon ça sera la porte ouverte ». Mais aux gens autour, de prendre le risque. Moi, je pense que si quelqu'un me le demandait, je le ferais. Après, on me mettrait 6 ans en prison, 6-7 ans. Ça valait le coup.
J'ai aimé cette lettre à Lucilius de Sénèque, dont je voudrais vous lire un passage. J'ai le droit de choisir le moyen de quitter la vie. Dans la mort, plus que dans toute autre affaire, nous devons suivre notre goût. Nous devons, pour vivre, chercher l'approbation d'autrui. Pour mourir, la nôtre nous suffit. La mort la meilleure est celle qui nous plaît.
Ah, c'est magnifique. Tu te rends compte, depuis le temps que ça a été écrit.
C'est ça.
Oui. Et c'était lequel qui s'était suicidé dans son bain. Tu vois, un côté... mais un sage, sachant ce qu'il attendait. Mais en même temps, par exemple, si on parle de Jules César, il ne s'est pas suicidé, mais il a fait mieux encore. Quand il va au Sénat, il a lu dans les augures qu'il serait tué. Il va vers sa mort. Et ça, j'aime beaucoup. L'idée de dire, qu'est-ce qui m'attend? Le Sénat va me destituer. Je vais vieillir comme un vieux monsieur dans son jardin plein d'orangers. Ça m'intéresse pas. Je vais là où je sais qu'ils vont me tuer. Donc, quand vous disiez, c'est vrai que... D'abord, on ne parle plus, on ne dit plus. Monsieur Untel est mort. Monsieur Untel nous a quittés. Mais quittés, il est allé chercher des cigarettes. Ensuite... Oh, quand on dit la mort, quand on parle de sa propre mort, on ne parle pas de ça. Moi, je pense que, comme je vous disais, très jeune, j'ai été frappée par tout ce qui est éphémère. Et donc, j'ai toujours flirté avec cette idée. La mort des autres me fait peur, peut-être. Mais la mienne, je me disais, bon, c'est comme un boxeur, on est tous des boxeurs qui montaient sur le ring. Il faut être idiot pour être monté sur un ring sans savoir qu'il va y avoir un chaos final. Et que vouloir toujours le postponer, le dire plus tard. Alors que ça, moi je pense toujours que la mort, c'est ce qui donne le prix aux choses. C'est parce que ça reviendra pas. Il n'y a qu'une vie. C'est comme ça aussi qu'on peut évacuer des choses comme la vanité, comme les blessures d'amour propre, comme même les chagrins, en disant finalement tout ça aura une fin. Donc, par exemple, plutôt que la chose plus terrible que la mort, c'est peut-être la vieillesse, tout ce qui vous abandonne. Mais ça aussi, on le sait depuis le début. Comme si toutes ces choses qu'on sait depuis le début, on faisait comme si ça n'existait pas. Voilà, on dit plus la vieillesse. On dit le troisième âge, puis le quatrième âge, et puis etc. Et alors, peut-être par goût de la provocation, peut-être. Ou peut-être que j'aime pas étouffer dans un carcan des mots. Alors, tu vois, il y a le côté la mort. Je me rappelle d'un livre que j'avais lu quand j'avais 12-13 ans. C'était Bazin, « Ô mort, où est ta victoire ?» Je trouvais que c'était, tu vois, quelque chose... C'est un peu comme quand on disait « On parle pas de Lucifer ». Tu vois, il y avait ces choses que... Et que la mort, c'était ce qui donnait la force à la vie. Parce que elle était là, elle avait un début, un milieu, une fin. Et qu'il ne fallait pas faire comme si ça n'existait pas.
Je pense à ce personnage de Jean Rhys dans Bonjour Minuit, je crois. Ça, c'est une vieille dame qui donne envie de vieillir.
Mais bien sûr.
Indigne au possible.
Absolument.
Elle fait rêver.
Elle sait parce qu'elle n'est pas dupe. Elle le regarde. Elle voit le regard des autres sur elle. C'est parce qu'elle a mis un vieux manteau de fourrure qu'elle avait qu'il y a un gigolo. Elle sait, elle n'est pas dupe. Elle provoque. Elle fume ses cigarettes ou elle boit ses verres de vin. Et c'est magnifique ce titre. Good morning, midnight. Tu vois? Et parce qu'elle a dû être une femme qui a eu beaucoup d'amants, qui a aimé l'amour. Et elle est tellement lucide sur elle-même.
Oui, c'est une pragmatique à sa façon, comme Duras. Vous êtes d'accord avec ça?
Complètement.
Plus pragmatique que romantique, d'une certaine manière.
Oui, et puis...
Que romanesque.
Ah oui, oui. Oui. Pas romanesque. Matter of fact. Elle parle et des hommes, et du sexe qu'elle a aimé. Par exemple, Marguerite Duras, elle peut... On sait qu'elle a aimé les hommes, mais passionnément. Mais pas forcément comme oh, les hommes comme ça qui ont des grandes idées. Non, le corps des hommes, l'injustice des hommes, tout ça... Elle sait très bien en parler. Et puis, elle sait aussi quand le temps est parti. Il n'y a pas ce côté, comme dans Elle Magazine, comment rester sexy jusqu'à 90 ans. Elle rit de ça. Et en même temps, quand elle rencontre Yann Andrea, elle fait ce pari de l'amour en s'en fichant du regard des autres. Ouais. Il y a quelque chose de carnassier en elle. Bon, il faut tenir la route en face d'elle. Hein. Parce qu'il ne faut pas être un abruti fini. Il faut aimer le vin rouge. Puis il faut aimer se coucher très tard.
Merci Fanny Ardant. À demain.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Fanny Ardant avec Philippe Bresson. À voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Martin Guénard, réalisation Rafik Zénine, coordination Bélindola. Cette émission s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.